Radio Barque, cinquième, troisième partie, invité Alain Perea, donc député de l'Aude. Vous avez été d'ailleurs maire pendant pas mal de temps, entre autres choses, Alain Perea. Donc ça nous emmène tout de suite, je crois, sur une première question. Même si jusqu'ici, dans les élections municipales, on vous sent plutôt discret, mais vous ne pouvez pas être totalement absent de ces élections. Et on sait que vous soutenez la liste Narbonne 21.
Oui, alors moi ça fait déjà quelques mois, et même c'était daté du 14 février où j'avais clairement dit qu'il y aurait une liste alternative aux deux candidats qui souhaitaient occuper la place à l'époque. Hein. Voilà, et donc depuis nous avons travaillé et aujourd'hui effectivement il y a un collectif, Narbonne 21, 21 pour enfin faire rentrer Narbonne dans le 21e siècle, parce que nous considérons que les équipes qui sont en place et qui veulent prétendre diriger cette ville sont sur des schémas qui sont des schémas totalement dépassés. Et donc nous avons construit autour, mais je crois que maintenant c'est plus un secret, autour de David Granel, mais aussi tout un tas d'autres personnes qui apportent leurs compétences, qui apportent leur dynamisme. Nous sommes en train de créer un collectif, et ce collectif fera entrer enfin Narbonne dans le 21e siècle.
Alors habituellement, quand il y a un député sur une liste, il est toujours tête de liste. Bon, ça n'échappera à personne que c'est M. Granel qui a pris cette tête de liste. Votre position est-elle définie, votre future position sur cette liste?
Non. Alors d'abord, rappeler que on ne peut plus être député maire, voilà, député président d'un conseil départemental ou autre, c'est la loi. Et encore une fois, c'est pas nous qui l'avons voté, mais j'y adhère totalement. Et quand je vois, et je crois que nous en parlerons tout à l'heure, quand je vois le travail que représente la fonction de député, je vois mal comment on peut être député et maire. Dans une autre période, c'était peut-être possible. Aujourd'hui, ça n'allait plus. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et je reviens sur votre question. J'ai déjà utilisé, je crois, deux ou trois fois le terme collectif, et je crois que ce qui est important et ce qui prime dans notre démarche, c'est véritablement cette notion de collectif. Avec un candidat tête de liste, David Granel, qui a ma confiance, mais surtout deux, toutes les compétences pour être un véritable animateur d'un collectif. Et moi, ma place ne se compte pas, est-ce que je serai deuxième, troisième, cinquième ou septième. La place, c'est... va se faire autour de ce projet que nous sommes en train de construire. Il y a déjà des lignes directrices très fortes, et où je peux apporter le plus d'énergie, le plus de force et le plus de compétences. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons le faire, dans un collectif qui se crée, qui est créé, qui avance. Voilà, donc moi je ne revendique pas une place particulière. La seule place que je veux avoir et que je souhaite avoir, c'est celle qui fera que, de par mes fonctions de député, de par mon expérience d'élu local, mais aussi d'ancien fonctionnaire territorial, je pourrai apporter pour la Narbonnaise et les Narbonnais.
Donc, Alain Perea, on le voit, vous êtes présent, vous êtes discrètement présent, pour tout un tas de raisons que vous avez expliquées. Maintenant, l'intervention précédente de Michel Santeau sur la confusion des genres qui est largement pratiquée, y compris par certaines personnes, d'ailleurs, de la liste que vous soutenez, la confusion entre les compétences de l'agglo, les compétences de la ville, c'est quelque chose de nouveau, mais qui a l'air d'avoir du mal à prendre.
Moi, nous sommes en train, et encore hier, hein, je débattais de cela, nous sommes en train de travailler sur la loi engagement et proximité, et j'en suis le rapporteur pour avis, qui revient sur justement cette relation entre la commune et l'intercommunalité. L'intercommunalité, depuis les lois Chevènement, s'est construite sur un grand mensonge, qui était de dire que l'on allait faire des intercommunalités au service des communes. C'est ce que on vendait aux maires, que l'on a fait croire aux maires. Et en fait, l'idée qui était derrière, c'était de supprimer les communes. Et donc, on a tout fait pour supprimer les communes. Moi, je reviens sur la chronique de Michel Santeau, sur la Salanque. Enfin, il faut quand même pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui dans la Salanque, c'est la conséquence de la loi NOTRe qui a fait que, votée par des socialistes, donc on est aussi sur un schéma socialiste, hein, qui fait que il fallait avoir des intercommunalités XXL, parce que plus on aurait des intercommunalités grandes, plus on aurait la possibilité de supprimer des communes. Et donc, il faut véritablement revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, entre autres à l'Assemblée nationale. Et donc, sur la deuxième partie de la chronique de Michel Santeau, je partage totalement ce qu'il a dit, sauf que dans la relation qu'il existe dans notre pays entre le maire ou le candidat à l'élection municipale et l'électeur, l'intercommunalité n'apparaît que comme un outil. Et donc, en gros, c'est moi, je veux que ma ligne de bus change et je m'adresse à mon maire. Après que tu aies des problèmes avec l'intercommunalité, en gros, pour l'électeur, actuellement, c'est pas son souci, quoi. Voilà. Et donc, la difficulté et l'ambiguïté, c'est de à la fois dire « Oui, mais c'est pas moi, c'est la faute des autres », parce que ce discours-là ne marche plus. Et à juste titre, d'ailleurs.
Et pourtant, on l'entend beaucoup.
Mais pourtant, on l'entend beaucoup. C'est aussi une... Alors, on part sur plusieurs pistes à la fois. Donc, je vais essayer de rester sur cette notion d'intercommunalité. Donc, moi, pour répondre concrètement à votre question, je crois que les gens qui vont voter, les électeurs, doivent se poser la question. Je vote pour une liste, je soutiens un candidat, mais si cette liste est élue dans la commune, et pour le coup c'est Narbonne, qui sera président de la communauté d'agglomération? Et cette personne qui sera présidente de la communauté d'agglomération aura-t-elle les moyens de présider dans de bonnes conditions et est-elle porteuse d'un vrai projet à l'échelle de l'intercommunalité? Et je précise qu'un projet à l'échelle d'une intercommunalité, ce n'est ni tout pour la ville-centre, ni une addition des intérêts communaux. Un projet intercommunal, c'est aussi, à un moment donné, être capable de porter une vision. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit par des adversaires à la liste de Narbonne 21, les seuls qui portent cette vision-là un peu intercommunale, c'est quand même Narbonne 21, parce que, et vous revenez sur mon positionnement, parce que j'ai cette expérience-là, mais parce que nous avons Sabine Flotre qui a été élue dans un village, parce que nous avons David Granel qui a une grande expérience sur ce thème-là, parce que nous avons des personnes qui ont travaillé déjà sur des visions intercommunales, ce n'est malheureusement, mais pour eux, parce que tant mieux pour nous, ce n'est malheureusement pas le cas des autres. Et puis quand je vois l'équipe actuelle en place qui déjà est en train de dire, si nous regagnons la mairie de Narbonne, nous mettrons telle personne, je ne veux pas le citer, à la tête de la communauté d'agglomération, mais pendant 6 ans, cette personne n'a rien fait pour l'intercommunalité. Elle ne porte aucun projet pour l'intercommunalité. Et donc, il faut à un moment donné que les Narbonnaises et les Narbonnais soient intimement convaincus, et ça a été très bien expliqué par Michel Santo, que voter pour sa ville, c'est aussi par incidence, de par la loi, et par les lois qui ont été votées depuis maintenant de nombreuses années, 99 exactement, eh bien, c'est voter aussi pour un projet intercommunal, et donc il faut se poser cette double question.
Voilà, donc double campagne, comme le disent certains, en tout cas, il y a vraiment un double regard qui doit être présent, je dirais pas une schizophrénie, mais un double regard qui doit être présent entièrement.
Alors c'est pas une schizophrénie, c'est une cohérence, cohérence. Et c'est quand on veut pas se poser la question de cette cohérence, que l'on se retrouve dans des situations schizophréniques
voilà,
après.
Voilà, c'est ça, de partage et d'écartèlement, quelque sorte. Alors, vous disiez, Alain Perea, que la loi NOTRe, on en subit les conséquences, elle n'était pas très bonne pour vous et que vous envisagiez, alors vous, bien entendu, les députés de la majorité et le gouvernement, de la revoir. Et vous êtes entré récemment dans quelque chose qui s'appelle un conseil politique, alors de votre parti, En Marche. Oui. Expliquez d'abord de quoi il s'agit exactement.
Donc en fait, nous sommes un mouvement qui est en pleine structuration, hein, puisque je vous rappelle quand même qu'il est quand même récent, et nous avons décidé de créer un conseil politique. Ce conseil politique a pour vocation, a une double vocation. La première, c'est de pouvoir proposer une ligne directrice sur un certain nombre de sujets. Actuellement, nous travaillons, et ça n'étonnera personne, sur la question de la laïcité. Et donc, à un moment donné, savoir un petit peu ce que l'on pose comme question. Donc, comme réponse à ces questions de société. Et donc, nous débattons, et c'est des sujets très, très intéressants sur lesquels moi j'avais déjà beaucoup travaillé. Donc, il y a des choses très intéressantes. Et puis, le deuxième axe de ce conseil politique, c'est de pouvoir commencer à préparer l'avenir. Nous venons de voter une loi fonction publique qui, moi, je le rappelle, je ne l'ai pas votée. Et donc, on est en train d'écrire, de travailler sur quelle sera la fonction publique du 21e siècle et comment on va continuer à la faire évoluer. Donc on est à la fois sur des sujets d'actualité avec des réponses politiques et on est aussi sur des stratégies à plus long terme. Et je vous parle de la fonction publique parce que c'est le sujet sur lequel personnellement je suis en train de travailler. Voilà, donc nous sommes une vingtaine d'élus, hein, il n'y a pas que forcément que des députés, et nous échangeons sur ces thèmes-là. Nous auditionnons aussi un certain nombre de personnes, des philosophes, des chercheurs, des universitaires, pour faire un petit peu aussi écho à la chronique de Michel Santo, qui, comme lui, me désespère de voir que les universitaires sont aujourd'hui soumis aussi à ce genre de pression. Et donc, voilà, nous travaillons là-dessus.
Oui. Alors, donc, il s'agit finalement, à terme, de préparer des projets de loi.
Oui, bien sûr, il s'agit à terme de préparer des projets de loi, mais au-delà de la technique. Parce que le problème que l'on a dans ce pays depuis de nombreuses années, c'est qu'on a mis la technique avant la politique, et la politique au sens noble du terme. Et donc, en gros, quelle est la vision que nous portons? Et donc, cette vision, et encore une fois, pour revenir, et j'essaye d'être sur des exemples concrets, pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure sur les intercommunalités, en fait, supprimer les communes n'était pas assumé, donc on faisait des intercommunalités, et au final, on vidait les communes de leur substance. Emmanuel Macron, et je l'avais dit à votre antenne, je le cite souvent partout où je suis, parce que c'était vraiment pour moi un point important, j'avais dit à votre antenne, vous m'aviez posé la question, vous n'êtes pas encore officiellement membre d'En Marche. Et je vous avais répondu, il y a deux raisons à cela, et une des raisons, c'était tant qu'Emmanuel Macron ne se sera pas positionné sur les communes, je ne pourrai pas être adhérent d'En Marche. Nous étions en octobre ou novembre 2016. Et quelques jours après, il posait clairement dans son discours dans un discours que les communes devaient être le premier échelon de notre démocratie dans notre pays. Voilà. Et donc, on est là-dessus sur porter une vision politique, et c'est ce que nous essayons de faire dans ce conseil politique. Une fois que l'on a dit que les communes sont le premier échelon démocratique, et bien derrière, comment on construit des lois en restant dans cette véritable stratégie politique? Je reviens donc sur les intercommunalités. La commune est le premier échelon démocratique, mais un certain nombre de sujets, l'eau par exemple, ça a été dit, ne peut pas être traité à l'échelle de la commune. C'est un problème qui est intercommunal, voire même au-delà. Et on sait très bien que c'est un défi planétaire, l'eau. Donc moi, quand j'entends certains maires qui me disent « Mais moi, à l'échelle de ma commune, je vais gérer l'eau », c'est pas possible. Nous sommes là sur une approche qui est une approche souvent financière. En gros, j'ai la ressource, donc comme j'ai la ressource, j'ai pas trop envie de la partager. Ou sur des calculs politiques, mais ça a été dit tout à l'heure, je vais pas y revenir. Et donc, le rôle du législateur, le rôle d'avoir une vision politique, c'est à un moment donné de dire, très bien, l'intercommunalité doit s'occuper de l'eau, doit avoir la compétence eau, mais comment on fait que certaines communes se sentent encore en pleine possession d'un certain nombre de choses? Et là, nous venons, mais je ne doute pas que Michel Santo se fera un plaisir de commenter, nous venons, dans les jours qui viennent, d'imaginer, puis ça a été voté hier et c'était porté par moi à l'Assemblée nationale, une nouvelle façon de mettre en œuvre une compétence, c'est la gestion déléguée par l'EPCI à la commune. Voilà, donc c'est une nouvelle façon de mettre en œuvre une compétence qui va faire couler beaucoup d'encre, et je suis fier d'avoir porté cet amendement hier en commission, et j'espère la semaine du 18 novembre dans l'hémicycle.
Oui, donc c'est une refonte de la loi sur l'intercommunalité actuelle?
Non, parce que les députés républicains ont voulu partir sur ce thème-là de refonte et autres. Moi, je crois que nous ne sommes pas sur une refonte, parce que être sur une refonte, ça voudrait dire deux choses. Un, dire que tout ce qui a été fait par le passé était mauvais, ce qui n'est pas vrai, et je pourrais l'illustrer. Et surtout, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'intercommunalités majoritaires dans notre pays qui fonctionnent bien. Alors bien sûr, il y a quelques maires ici et là qui ne sont pas satisfaits. Nous avons aussi des intercommunalités qui ne marchent pas bien. On a eu un exemple tout à l'heure. Mais au fond, il y a beaucoup d'intercommunalités. Et je crois que globalement, si on écarte les états d'âme du maire actuel de Narbonne, l'intercommunalité de Narbonne, la communauté d'agglomération de Narbonne, marche bien. Quand on veut apporter sa pierre à l'édifice, si la mairie de Narbonne avait joué le jeu du développement économique à l'agglomération, ben je pense que nous aurions avancé beaucoup plus vite que ce qu'on l'a fait. Parce que j'étais vice-président à l'époque, chaque fois que l'on voulait avancer sur les questions de développement économique, eh bien on avait derrière la mairie de Narbonne qui nous expliquait que ce que l'on proposait n'était pas bon. Mais ils n'ont jamais rien proposé à la place. Et donc, il faut être dans cette dynamique-là. Donc, nous ne voulons pas refondre complètement cette approche-là. Nous voulons juste la faire évoluer afin que les choses fonctionnent mieux et réinventer un lien entre commune et intercommunalité, parce que l'intercommunalité n'est pas pour nous, en tout cas, dans notre vision politique, un outil pour supprimer les communes en France. Les Français sont amoureux de leurs communes, et donc il faut véritablement leur permettre de rester heureux dans leur
commune. Oui, alors message clair, donc la commune n'est pas ou n'est plus menacée, puisque vous le laissiez entendre tout à l'heure à l'Impéria, il y a quelques années, lorsqu'avait été envisagée cette intercommunalité, le but était clairement de supprimer à terme les communes.
Mais... C'était la logique même de la loi Chevènement.
Oui, oui, oui. Voilà. Sauf oui. qu'on a fait
alors, un, c'est, on a fait un truc juste, pas clair. Juste pour être. Voilà. C'était pas clairement affiché.
Oui.
C'était pas clairement affiché.
C'était
invisible. Moi, je me souviens d'une réunion où j'étais. Il y avait Georges Frêche qui disait c'est la stratégie de l'étrangleur ottoman. Voilà. Mmh. Comme l'on ne veut pas nous tuer immédiatement, on nous étrangle à petit feu.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais au fond. Et les élus. Qui étaient aux affaires, s'en sont vite rendu compte. Enfin, quand même, les deux gouvernements précédents ont diminué drastiquement les dotations aux communes. Elles les ont étranglées. Nous avons arrêté de baisser les dotations et j'invite tous les auditeurs, ils peuvent taper sur le site du ministère des Finances le nom de leur commune et ils verront que les dotations ont baissé jusqu'à ce que l'élection d'Emmanuel Macron, et que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, que nous sommes aux affaires, nous avons arrêté de baisser les dotations. Alors bien sûr, certains nous disent, vous les avez pas remontées. Non mais, oui. Ils ont soutenu des gouvernements sans rien dire, ils ont soutenu des gouvernements qui les baissaient. Donc nous, on les a quand même stoppés, et je trouve que c'est aussi un signe fort que l'on a envoyé à la direction des communes. Alors, certains ont crié en disant que nous n'avions pas suffisamment fait de choses pour les communes, mais... Et on peut le prouver, nous avons déjà beaucoup plus fait que les deux gouvernements précédents.
Oui, et pourtant, justement, le président lui-même, Emmanuel Macron, a dû, si je puis dire, ramer pas mal pour essayer d'aller contre cette notion qu'il regardait les communes et les territoires de haut.
Écoutez, c'est simple. Tout à l'heure, vous parliez de l'ADCF, l'Association des Communautés de France, dirigée par un républicain, le maire d'Annecy. Monsieur Barouin, qui s'est empressé de dire qu'il n'était plus républicain, mais qu'il y a toute une culture républicaine, et surtout, qui n'est vraiment pas pour Emmanuel Macron. Ces deux personnes-là tiennent les deux grandes associations des collectivités territoriales en France. Ils ont une capacité à diffuser une information qui est de dire que Emmanuel Macron et sa majorité n'aiment pas les maires, et donc ils ont diffusé ça, ils ont crié ça haut et fort, et bien sûr, et on en revient aussi sur ce qui était dit tout à l'heure dans les chroniques, avec, derrière, du moment que l'on crie sur du désordre, eh bien, c'est beaucoup plus facile que de dire « Emmanuel Macron aime les maires, donc tout va bien et tout le monde s'aime ». Donc on est parti sur cette ligne-là, amplifié sur les territoires, et moi je le vois, les maires qui sont venus me voir pour véritablement critiquer notre politique en direction des communes, ils sont tous encartés au Parti Socialiste. Et chaque fois que je leur répondais « Mais comparez ce que nous avons fait avec ce qui a été fait par le gouvernement précédent », ils étaient plutôt embêtés. Mais les maires qui aujourd'hui ont une approche plutôt neutre, qui sont là uniquement pour gérer leur commune et l'intercommunalité, ben ils se plaignent pas d'Emmanuel Macron. Sauf qu'on leur donne pas le micro, parce qu'ils sont pas présidents de l'association des maires de l'Aude, de l'association des maires de France ou de l'association des communautés. Voilà donc.
Voilà donc une explication. Un tout dernier point, puisque évidemment le temps passe, il faudra conclure. Parmi les dossiers que suit un député et que vous avez suivi à l'Impéria, il y a ce fameux traité avec le Canada qui s'appelle le CETA, je crois, que vous avez soutenu, or qu'il a fait couler beaucoup d'encre aigre et adverse récemment. Pouvez-vous, en conclusion, expliquer cette prise de position à l'Impéria ?
Bah écoutez, moi je vais essayer, sans rentrer dans le détail, je vais essayer d'être très, très clair en trois points. D'abord, rappeler que ce CETA, il a été commencé sous Sarkozy et il a été appliqué par anticipation
sous Hollande
avec un déni complet de démocratie par rapport aux décisions. Voilà. Donc moi, toutes les personnes qui sont venues m'expliquer que nous, on respectait pas la démocratie et tout ça, il faudrait qu'ils aillent le dire aux personnes précédentes. Donc nous n'avons fait que valider quelque chose qui était appliqué depuis plus de 3 ans.
Mmh. Bon.
Je m'adresse aux auditeurs. Est-ce que ça a changé leur vie? Voilà. Est-ce que ça a changé leur vie? Donc, à partir du moment où nous l'avons voté, tout le monde est monté, enfin, certaines personnes sont montées sur la table en disant que c'était un scandale. Mais depuis 3 ans, Est-ce que la vie de nos auditeurs a changé avec
ce CETA ? Il fonctionnait déjà, donc.
Il fonctionnait déjà, et donc on a régularisé un certain nombre de choses qui existaient depuis 3 ans. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est en train de passer un petit peu inaperçu, mais ça va véritablement poser des problèmes très rapidement. Regardez ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, qui impose des taxes sur le vin français. Mmh. J'ai eu une réunion hier avec le président des vignerons indépendants, qui, je le rappelle, et Jean-Marie Fabre, nous avons la chance de l'avoir dans notre territoire. Donc, j'ai eu une réunion avec lui à Paris. C'est une catastrophe à venir pour notre pays. Le Bourgogne est en grande difficulté. Le Beaujolais, il y avait le député de la circonscription du Beaujolais, nous dit que ça va être un drame territorial. Et donc, si on n'a pas des accords qui permettent d'encadrer tout ça, nous sommes soumis au bon vouloir d'un président qui est Trump ou qui pourrait un autre dans un autre pays. Et donc, on a besoin d'encadrer tout ça. Et le CETA est bon pour notre agriculture à nous, qui est une agriculture du vin. Et donc, n'ayons pas peur dans notre territoire. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai voté. Et puis, le dernier point, parce que je l'ai vraiment sur le cœur. Notre pays est fort. Il a une agriculture qui est parmi les plus ambitieuses en termes d'écologie, en termes de développement, en termes de recherche. Et j'entends les agriculteurs et les citoyens français qui se larmoient et qui sont véritablement en train d'avoir peur de l'agriculture canadienne. Mais moi, je suis fier de mon agriculture. Et ce que je porte, c'est que l'agriculture française va faire changer l'agriculture canadienne, et pas le contraire. Donc soyons ambitieux pour notre pays, soyons fiers de ce que nous sommes, portons notre culture, importons notre culture, et ne soyons pas en train d'avoir peur de l'agriculture canadienne. Enfin, où est passé l'esprit français, cette force que nous devons avoir? Donc moi, le CETA ne me fait pas peur, parce que demain, c'est nous qui allons importer au Canada un certain nombre de choses, et pas subir, là, les Canadiens, comme si nous étions un pays au fond du seau. Voilà, donc ayons un discours positif, et arrêtons dans ce pays d'avoir peur de notre ombre, et d'avoir peur des autres. Oui, parce qu'il faut exporter et pas importer.
Voilà, et bien là-dessus, on conclut. Merci pour cette explication claire et bien engagé, Alain Perea. Prochaine invitée, alors, le prochain sera Bertrand Malquier, secrétaire du mouvement Nouveau-Narbonne. Après quoi, nous recevrons bien très prochainement un vigneron, responsable des vignerons indépendants, monsieur Alex Tay. Et puis plus tard, on reviendra également dans le politique avec monsieur Saint-Cluc, monsieur Mouly, etc. Fidèlement à l'esprit de cette émission Radio-Barque. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci.